C'est une joie pour moi d'être parmi vous ce matin. Ça fait quelques temps déjà, ça fait 4 mois. Je suis resté 3 mois la dernière fois, c'était bien. Entre-temps, j'ai fini mes études. Je suis très content aussi. Et j'ai eu la joie, dans une de mes classes, classe d'hébreu, d'étudier les psaumes en particulier, depuis la langue hébreu. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse partager ensemble à partir du psaume 1. Est-ce que vous aimez les voyages? Qui est-ce qui aime voyager? Qui est-ce qui a déjà voyagé dans sa vie? Aïe, 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 il y en a qui n'ont jamais voyagé, les pauvres. En plus, ils viennent de la Martinique. Alors, quand on part en voyage, qu'est-ce qu'on fait? Avant de partir, on se prépare. Peut-être que vous avez besoin de votre passeport, vous avez besoin d'habits de rechange. Si vous allez dans un endroit chaud, il faut prendre des habits qui conviennent. Dans un endroit froid, comme à Chicago, il faut prendre un blouson, il ne faut pas oublier ses gants et son bonnet, au comptoir d'Air France, comme moi. Et il faut se préparer pour partir. Eh bien ici, dans le psaume, c'est la même chose qui se passe. On commence le livre des psaumes, le psautier. Et on commence avec le chapitre 1, qui est une préparation pour un voyage. J'ai demandé à Michel de commencer une série sur les psaumes. Non, c'est une blague. 150 psaumes, ça ne marcherait pas très bien. Mais on va commencer avec le premier psaume. Une porte d'entrée pour le psautier. Voilà. Mais avant toute chose, j'aimerais prier. Seigneur Jésus, merci pour cette joie et ce privilège qu'on a de recevoir ta parole. Au travers du monde, il y a des gens qui n'ont pas cette joie de même posséder une Bible. Et nous, on peut posséder une Bible chacun et la partager ensemble et apprendre les uns des autres dans ta parole, Seigneur. Quelle joie, quel privilège, et nous sommes redevables envers toi alors qu'on s'approche de toi pour écouter ta voix, de ce que nos cœurs soient attendris devant toi et de ce qu'on soit sensible à toi. Seigneur, assouplis nos cœurs, que l'on puisse écouter ta parole ce matin, que tu puisses nous remplir de ton Esprit Saint pour qu'on s'approche de toi avec humilité et fidélité. Touche nos cœurs là où tu veux nous enseigner et là où tu veux nous faire grandir, et fais de nous toujours des adorateurs plus fidèles et plus proches de toi, Seigneur. Tu mérites notre louange, tu mérites que l'on tienne ferme en toi et que l'on porte du fruit. Dispose de nous ce matin à recevoir ta parole. Dispose de moi aussi à partager ta parole fidèlement. Remplis-moi de ton Esprit Saint et préserve-moi de dire quoi que ce soit qui te déshonorerait. Glorifie ton nom ce matin, Seigneur, alors qu'on cherche à s'approcher de toi, dans le nom de Christ. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. C'est un psaume un peu particulier quand on considère le psautier en général. C'est un mixte un peu entre paroles de sagesse et poésie. Ce psaume a été placé clairement au tout début du livre dans un but précis. C'est un peu comme un portail. Il garde l'entrée du livre en entier. Il garde l'entrée de l'enseignement de Dieu au travers des psaumes. Le lecteur ou l'auditeur qui s'approche du livre des psaumes est mis au défi de savoir quelle va être sa réaction envers Dieu, envers son enseignement. Est-ce qu'il est ouvert ou est-ce qu'il est fermé? Est-ce qu'il veut être fidèle devant Dieu? Est-ce qu'il veut être juste ou est-ce qu'il veut se détourner et pécher? Alors qu'on rentre dans le psautier et qu'on reçoit l'enseignement de Dieu, le psautier contient des intercessions, des lamentations, des louanges, toutes sortes de différentes situations et des adorations aussi, des prières d'adoration. on est invité à rentrer dans la louange, à contempler Dieu et à le célébrer. Et avant de rentrer, l'éditeur a placé ce psaume en tout premier lieu pour nous donner ce défi. Quelle est la nature de notre cœur? Quelle est notre réaction envers Dieu et comment est notre prédisposition envers lui? On est invité à regarder à nos cœurs avant d'entrer dans la célébration et la louange qui est tout autour du psaume, du psautier. Le psaume 1, dans certains manuscrits même, ne faisait pas partie du livre des psaumes. Certains manuscrits occidentaux le mettent juste comme une introduction, parce que c'est vraiment sa place dans le psautier. Certains le mettent en introduction, certains le lient avec le psaume 2, qui donne aussi une introduction au psautier. Ils forment ensemble un bloc, ils ont des vocabulaires, des mots qui sont similaires entre les deux aussi. Mais ici, dans le psaume 1, le lecteur est défié à regarder à son cœur et à regarder à son attitude. Quelle voie est-ce qu'il va suivre? Est-ce qu'il va suivre la voie du juste ou est-ce qu'il va suivre la voie des méchants? La structure du psaume, j'espère que vous aimez mon PowerPoint avec deux slides, mais j'ai pensé que je vous mettrais la structure du psaume parce que c'est assez compliqué peut-être, en tout cas à décrire. La structure du psaume est une structure typique hébraïque qui est un chiasme. Quelqu'un a déjà entendu le mot chiasme? Merci Samuel. Ça vient de la lettre grecque chi, qui forme comme un X allongé. Et comme vous voyez, là, il y a la partie gauche du X est représentée dans le ABC, C', B', A'. Les différentes pensées sont mises en parallèle, en contraste en particulier dans ce psaume, et de façon opposée. Donc A est parallèle à A' à la fin, il y a l'affirmation, B est parallèle à B', et C est parallèle à C'. On voit, mais en même temps, il y a toujours une structure, première partie, l'homme béni, et deuxième partie, le méchant. Et cette structure-là, ces deux blocs sont mis en valeur dans l'hébreu à partir du déterminant qui est placé devant l'homme béni et devant l'homme méchant au verset 4 aussi. Toutes les autres mentions de méchant, pécheur, moqueur, verset 1, ou alors même méchant, pécheur, juste, pécheur, verset 5 et 6, n'ont pas le déterminant. Ça montre une volonté du psalmiste de distinguer ces deux parties. Donc, on va se lancer. Première partie, la bénédiction du juste. Heureux l'homme. Ah, c'est bon ça. Heureux l'homme. Heureux, mais en fait, ce n'est pas une très bonne traduction. L'hébreu, Ashré, est mieux traduit par béni. Ce n'est pas juste heureux, content, joyeux. C'est plus béni, béni de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, on a un peu son équivalent dans le discours du Sermon des Oliviers, quand Jésus dit « heureux l'homme », tout ça. Même le mot grec, à ce moment-là, c'est le mot grec qui est traduit dans la Septante pour ce texte-là, qui veut vraiment dire « béni ». Donc, l'homme béni, c'est le sujet de ces trois premiers versets. L'homme béni, c'est celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On a là trois propositions relatives. Je suis parti aux États-Unis, je n'ai pas perdu mon français. Enfin, pas tout à fait, pas tout. Trois propositions relatives, construites très similairement, de façon très similaire. Le verbe, deux compléments, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ces trois propositions forment ce qu'on appelle une anabasis en figure de style. C'est une décadence progressive. Il y a trois décadences progressives, décadence dans les verbes et décadence dans les compléments. Marcher, c'est un terme général qui reflète une attitude personnelle. S'arrêter, c'est une première position, c'est une première position vers l'identification, et s'asseoir, c'est une identification totale. Donc on passe d'une marche générale à une identification plus profonde et une identification complète. On voit ça aussi dans l'idée de mouvement. On marche, si vous voyez quelque chose, quand vous marchez, vous passez à côté, vous identifiez pas vraiment avec ça. Si vous vous arrêtez, c'est un premier pas pour écouter. Si vous vous asseyez avec, ça montre que vous y payez vraiment attention. La deuxième décadence, c'est le premier complément, le conseil, la voix et la compagnie. Le conseil, c'est quelque chose de général qu'on reçoit. La voix, ça reflète un comportement. Et la compagnie, ça, c'est une identité de groupe. Donc là, de même, il y a décadence dans les compléments. Et la troisième décadence, c'est dans les termes. Méchant, pécheur, moqueur. En hébreu, le mot méchant, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bien. Dans le mot pour le pécheur, c'est quelqu'un qui fait quelque chose contre Dieu et contre sa loi. Et le moqueur, c'est celui qui fait quelque chose qui n'est pas bien, contre la loi de Dieu, mais qui en plus s'en réjouit. Il est content de se rebeller contre Dieu. On voit ça en particulier dans les proverbes. Donc, on voit ici, dans le premier verset, l'affirmation « L'homme qui est juste est béni ». Pourquoi ? Parce qu'il ne s'attache pas à ce qui ne vient pas de Dieu, à ce qui n'est pas bon. Il y a une décadence progressive dans la terminologie, mais lui, il ne commence même pas avec le premier pas, le premier degré d'assimilation avec ce qui ne vient pas de Dieu. L'homme qui est béni, c'est quelqu'un qui tient ferme en Dieu, qui ne s'attache pas même au premier degré de ce qui ne vient pas de lui. Dans notre culture, on a toutes sortes de moyens de communication, on a toutes sortes d'influences autour de nous. Et c'est facile de se dire qu'en tant que chrétien, c'est pas toujours facile, mais on va tenir ferme et on va s'abstenir des plus grands péchés. Les péchés que les gens connaissent, les choses que même le monde n'accepte pas. Mais l'auteur, ici le psalmiste, nous pousse, même nous, à réfléchir différemment. Il y a des pas qui sont progressifs vers le péché. Et c'est à nous de regarder à nos cœurs, à regarder à notre voix et dire non, je ne vais même pas accepter le premier degré de péché que peut-être personne auquel peut-être personne ne prêterait attention dans ma vie. Je vais tenir ferme et je vais refuser cela pour m'attacher à Dieu, à lui-même. Donc, l'homme béni, il est tout seul face à la pluralité des méchants, des pécheurs et des moqueurs. Ils sont trois et les trois sont pluriels. Mais l'homme béni, il est tout seul face à toute cette multitude de personnes qui ne s'attachent pas à Dieu. Mais de même, le chrétien, dans sa vie de tous les jours, peut-être il est autour de toutes sortes de personnes et de toutes sortes d'influences qui ne viennent pas de Dieu, mais il peut tenir ferme en Dieu parce qu'il est solide en lui. Donc, premier verset, l'affirmation, on peut être béni en Dieu. Deuxième verset, description. Qu'est-ce que c'est ? D'où est-ce que ça vient ? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Dans la littérature des proverbes, la loi, la Torah, ce n'est pas juste la parole de Dieu ou les lois de l'Ancien Testament. Les premières lois de Moïse, c'était des lois civiques, sociales et de culte. Qui sont valables, qui étaient valables pour eux. Et le psalmiste, l'Israélite qui voulait être fidèle, suivait ces recommandations de la parole, les lois qui étaient à suivre, les lois de Moïse. Mais en plus de ça, la loi, d'un point de vue de sagesse, c'est plus que juste les lois hébraïques. C'est plus que juste ces lois-là. C'est plus que même ce qui est dit dans les livres historiques, Josué, les juges ou les chroniques. C'est plus même que ce qui est dit dans les livres de proverbes. Mais c'est un terme général pour instruction, pour ligne de conduite. L'homme qui est fidèle, il prend plaisir à la loi de l'Éternel. Il cherche dans la loi, dans la parole continuellement à connaître Dieu, mais ils cherchent aussi, d'un point de vue général, dans la vie, où est l'instruction de Dieu ? Où est l'instruction de Dieu dans sa vie personnelle, dans sa marche ? Et comment est-ce que lui, il vit ? Et comment est-ce que lui vit avec Dieu ? Et interagit avec Dieu. Merci Seigneur pour le français. Donc il interagit avec Dieu, il agit de façon fidèle avec Dieu et il cherche à connaître le cœur de Dieu pour sa vie lui-même, pour que lui puisse être un témoignage autour de lui. Donc verset 1, affirmation de la bénédiction. Verset 2, description de la bénédiction. Il étudie la parole de Dieu, il réfléchit à l'enseignement de Dieu dans sa vie lui-même, il la médite jour et nuit. Une autre figure de style, parce que c'est de la poésie, dans la poésie il y a des figures de style qu'on appelle un mérisme. Ces deux termes qui sont opposés reflètent une totalité. Le jour, la nuit, deux termes opposés qui reflètent une totalité tout le temps. C'est un peu comme le ciel, la terre, deux termes opposés qu'on peut utiliser en mérisme pour dire partout. Le jour et la nuit, tout le temps, il reflète, il réfléchit à l'enseignement de Dieu dans la parole continuellement, mais aussi dans sa propre vie. Partout, dans chaque situation où il est placé, il réfléchit à ce que Dieu veut faire dans sa vie et comment il peut être une histoire pour Dieu. Verset 3, illustration. C'est pratique pour un prédicateur parce qu'il n'a pas besoin de choisir ses illustrations, elles sont déjà dans le texte. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. L'homme juste, il est comme un arbre. C'est pas magnifique. Ses sources, ses racines vont loin dans la terre. Ils sont proches des eaux, des ressources qui ont déjà été préparées pour lui, pour qu'il puisse tenir ferme, tenir debout. Ses feuillages ne se flétrissent point. Il porte son fruit en sa saison. C'est tout au long de l'année. Il porte son fruit quand c'est son temps, mais aussi il tient forme fort et il est solide au travers de la fraîcheur de l'hiver, au travers de la chaleur de l'été, parce qu'il a ses racines profondes et ancrées là où il faut. Notre traduction dit « planté près d'un courant d'eau ». Le courant d'eau, ce n'est pas un torrent, ce n'est pas un ruisseau. Le mot hébreu veut mieux dire, est mieux traduit par canal. C'est quelque chose qui a été créé par l'homme, comme dans les jardins du Proche-Orient. Des arbres étaient, il y avait des canaux qui étaient construits pour pouvoir alimenter les arbres. Il y a un jardinier qui prend soin de l'arbre et qui fait quelque chose de beau avec. Et c'est cette image-là qui est présente pour nous aussi. L'homme qui est fidèle, Dieu lui-même a creusé les canaux pour lui pour qu'il soit ressourcé, pour qu'il trouve ce dont il a besoin pour pouvoir être ferme, pour être solide, pour être construit, pour porter du fruit. Et on voit aussi au psaume 92, si vous voulez tourner avec moi, ou alors je le lis tout simplement. Des versets 13 à 16. Notre image ici est expliquée dans ce texte, en même temps, en parallèle. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Quand on regarde le parallèle, ici, le juste, il est un arbre encore. Il est planté dans la maison de l'Éternel. Donc on voit encore ici que c'est l'Éternel qui pourvoit. La maison de l'Éternel, c'est là où il y a son service, c'est là où il y a son peuple, c'est là où il y a son adoration, c'est là aussi où il y a sa parole. De la même façon, pour le chrétien, être planté dans la maison de l'Éternel, être planté près de ses sources, c'est être planté auprès de son peuple, c'est être planté dans sa parole, dans la prière, dans la communion avec les saints, dans le service. Et encore, au verset 16, on lit « pour faire connaître que l'Éternel est juste ». Quand vous allez, par exemple, dans les jardins de Versailles, qu'est-ce que vous voyez ? Des fleurs magnifiques, des arbres somptueux. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça ? Ben parce qu'il y a un jardinier qui en a pris soin. Il les a plantés, il les a nourris, et ils portent des fleurs, des feuilles, des fruits. Ils sont magnifiques parce qu'on a bien pris soin d'eux. Et ça montre le travail du jardinier. Ben de la même façon, un chrétien qui tient ferme en Dieu, qui est solide, qui grandit, qui porte du fruit, qui porte des fleurs, ça montre l'œuvre du jardinier, ça montre l'œuvre de Dieu en lui. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il reflète le caractère de Dieu, il reflète que Dieu a travaillé dans sa vie et il montre le travail que Dieu a fait dans sa vie. Dont le feuillage ne se flétrit point. Dans les textes de l'Ancien Testament, le feuillage qui se flétrit, c'est une marque de jugement. Une marque de jugement contre les nations infidèles ou une marque de jugement contre Israël quand il se rebelle. Mais d'un autre côté, Ézéchiel parle aussi du feuillage qui ne se flétrit point. Et ça, c'est une vision à portée eschatologique de la fin des temps. Et ça montre la bénédiction de Dieu. Donc ici, l'homme qui est fidèle, qui est ferme, qui est béni en Dieu, il est solide, il est bien planté, il est nourri et il donne. Il donne du fruit, il porte du fruit, il porte des feuilles qui durent et il tient ferme en toute saison. Et le fait qu'il soit bien planté et qu'il porte du fruit, c'est un témoignage pour son jardinier, pour Dieu lui-même qui l'a planté là, qui en a pris soin et qui a porté du fruit en lui. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc on a vu, première partie, l'affirmation, l'homme juste est béni en Dieu, la description, il est fort en sa parole, et troisièmement, l'illustration, c'est l'arbre fort planté près d'un courant d'eau. Verset 4, on commence la deuxième partie du psaume qui parle du jugement du méchant. Et donc, on va prendre l'ordre inverse du développement de la première partie. Et on va commencer par l'illustration, ensuite la description et ensuite l'affirmation. Il y a un contraste clair entre le verset 3 et le verset 4. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et ensuite, l'hébreu dit « Les méchants, pas comme ça ». C'est tout ce que ça dit. C'est court, c'est clair, c'est précis, c'est net. Les méchants, gnagnette, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec les méchants ? Eux, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Cette image-là, c'est une image de l'été, avec le temps de la moisson. Le blé est récolté, et le moissonneur qui veut séparer le grain de l'ivraie, c'est aussi une parabole du Nouveau Testament, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans un endroit où il y a du vent et il jette son blé en l'air. Le blé qui est plus fort, plus dense, retombe et la paille, l'ivraie, qui n'est pas bon, s'envole avec le vent. Le blé est ferme et retombe, mais la paille, qui est volatile, est un clair contraste avec l'arbre. Elle n'a pas de racines, elle n'est pas ferme, elle n'est pas nourrie, et elle est fragile, elle s'envole si facilement avec le vent, juste en une flopée de secondes. C'est le contraste entre le juste et le méchant. Le méchant, qui ne pratique pas ce qui est bon aux yeux de l'Éternel, lui, il est fragile, et son jugement vient rapidement, facilement. Donc ça c'est l'illustration. Verset 5, on a la description du jugement. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni des pécheurs dans l'assemblée des justes. Ici, on a retour à l'envoyeur. Au verset 1, on avait un homme, un juste, qui était entouré d'une multitude de méchants, de pécheurs, de moqueurs, tous au pluriel. Ici, la deuxième partie du verset 5, on a les pécheurs, qui ne sont pas dans l'assemblée des justes, qui sont rejetés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'agissent pas selon le cœur de Dieu. Le jugement, dans notre pensée, on pense toujours au jugement eschatologique. Il y a la fin des temps, on voit pas vraiment sur la terre le jugement de Dieu qui se passe contre les hommes qui ne font pas ce qui est bon. Mais dans la pensée hébreu, c'est aussi un jugement qui est premièrement même terrestre. Et j'aimerais qu'on puisse lire chapitre 37 des psaumes. Je vais lire des versets 9 à 15. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Les misérables, les faibles, ça parle de ceux qui sont justes, possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Dans ce passage, il est clair que le jugement de Dieu, ce n'est pas juste quelque chose qui arrive à la fin des temps, c'est aussi sur cette vie. Au verset 10, on regarde un lieu où l'homme est. Il est dans un lieu géographique que l'on peut placer sur terre et il n'est plus là dans un instant. Pourquoi ? Parce que Dieu a donné son jugement. Verset 9, ils posséderont le pays sur terre, terrestre. Et versets 14 et 15, quand on meurt une fois, je ne sais pas si on va mourir encore une fois, une deuxième fois, une troisième fois, on meurt une fois sur la terre. Et c'est cette mort-là qui arrive aux méchants quand ils veulent se rebeller contre Dieu et contre son peuple. Donc on voit ici dans le psaume 37 combien le jugement de Dieu est aussi sur la terre. Et dans la pensée hébreu, c'est même la première façon de voir le jugement de Dieu. C'est un jugement qui est terrestre, qui se manifeste sur cette vie. C'est aussi un jugement à la fin des temps, ou après la mort. Parce que Dieu est un Dieu juste et il n'y a rien qui lui échappe. Donc on voit ici, verset 5, description du jugement. Verset 6, l'affirmation du jugement. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. La préposition « car » serait mieux traduite par « sûrement »,« certainement ». Car c'est une possibilité de la préposition hébreu, mais à cause du parallélisme dans le texte, il semble que ce serait mieux de le traduire différemment. « Sûrement »,« certainement »,« assurément ». L'Éternel connaît la voie des justes. La voix, ça parle du caractère, ça parle de la conduite, mais ici, c'est une autre figure de style qu'on appelle métonymie. Quelqu'un a déjà entendu parler de la métonymie ? Amen. À l'école. C'est une métonymie où on parle de quelque chose qui est proche pour remplacer la chose elle-même. La voix des justes, c'est quelque chose de proche qui remplace le juste lui-même. L'Éternel connaît la voix des justes, l'Éternel connaît les justes. La voix des pécheurs mène à la ruine. En hébreu, le texte dit « la voix des pécheurs périt ». Donc, ce n'est pas juste la voix des pécheurs qui périt, mais c'est aussi le pécheur quand on regarde au contexte. Donc, on peut traduire « certainement, l'Éternel connaît le juste, les justes, et la voix des pécheurs, et les pécheurs périt ». Métonymie, si vous voulez quelque chose de plus terre-à-terre, vous dites « je vais aller au bureau du pasteur ». Vous allez au bureau du pasteur, qu'est-ce que vous allez y faire ? Vous n'allez pas vraiment au bureau du pasteur, vous allez voir le pasteur lui-même. On met l'objet à la place du sujet lui-même. Voilà, j'espère que ça clarifie ou pas. Enfin, tout ça pour dire, c'est de la poésie. Et les psaumes, c'est magnifique. C'est un différent style de poésie que ce que nous, on est habitué en français, en anglais, en espagnol, je pense aussi, avec des rimes, avec des séquences, des syllabes. Pour eux, c'est plus des idées qui sont mises en parallèle, qui se répètent, qui se complètent. On en laisse une part, on complète avec autre chose, on répète. C'est super. Par exemple, un autre aspect de la poésie dans ce texte, le premier mot du, du chapitre, c'est béni, Ashré, qui commence avec la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébreu. Et le dernier mot, c'est le mot Toved, Périra, et qui commence avec la dernière lettre de l'alphabet hébreu, pour montrer le commencement et la fin, une unité structurelle de ce psaume, et le parallélisme, le contraste avec le premier verset et le dernier verset. Enfin, tout ça pour dire, on a étudié le psaume 1. Mais alors, qu'est-ce que ça change pour nous dans nos vies ? On regarde le psaume 1 et on est invité, avant de regarder à Dieu, avant de passer au travers de toutes sortes d'expériences, toutes sortes de célébrations, d'invitations à la louange, toutes sortes de circonstances qui révèlent le cœur de Dieu au travers de tous les psaumes, les 149 autres psaumes, on est invité, avant toute chose, de se consacrer nous-mêmes à vouloir suivre la voie de Dieu, à vouloir suivre son enseignement et la recevoir, et le recevoir. Le recevoir par sa parole et se dire « je vais tenir ferme en toi, je vais recevoir ce que tu veux me donner » et être constamment ancré dans sa parole, mais aussi à recevoir dans nos vies nous-mêmes. Nos vies, vos vies, chacune de nos vies peut être vécue d'une certaine façon à ce que elle puisse être l'objet même d'un des psaumes qu'il y a dans la Bible. Si nos vies ne sont pas construites de façon à ce que ça puisse être un témoignage qui puisse être chanté, qu'est-ce que l'on manque dans nos vies ? On ne devrait pas vouloir manquer quoi que ce soit pour que Dieu puisse être un témoignage au travers de nos vies. Et c'est à nous de réfléchir à ce que Dieu veut faire en nous, ce qu'il a déjà fait et comment, où est-ce qu'il veut nous apporter dans l'avenir. On peut chercher Dieu, se consacrer à suivre dans sa parole, à suivre son enseignement. Et on peut tenir ferme, on peut être béni. Vous savez que vous pouvez être béni de Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Recevoir la bénédiction de Dieu, c'est quelque chose de magnifique. Sur cette terre et dans les cieux, recevoir ses promesses et être proche de lui, il n'y a rien qui soit comme Dieu. On a chanté tout à l'heure, nul n'est comme Dieu, nul n'est comme lui. On peut être proche de lui et s'attacher de lui, tenir ferme en lui, être béni, être ferme, fondé, être ressourcé dans ce qu'il nous donne, dans sa parole, dans la prière avec ses enfants et porter du fruit, être un témoignage même pour lui. Parce que quand les gens voient quel style de vie, quel témoignage nous donnons, ils peuvent reconnaître quel est le jardinier derrière cet arbre. Ils reconnaissent Dieu et ils le glorifient. Est-ce que Dieu n'est pas digne que le monde voit au travers de ses enfants qu'il n'est pas un Dieu qui donne la vie à moitié et qu'il n'est pas un Dieu qui donne des fruits à mauvais goût ? Dieu est un Dieu qui est fort et qui est capable et qui est capable de porter du fruit au travers de nous alors que nous cherchons à lui être fidèles, à être justes avec lui. Donc quelques exhortations et une autre exhortation qui est aussi personnelle pour moi, c'est la parole de Dieu. C'est quelque chose de magnifique. Et j'ai eu le privilège de passer 4 ans et demi à étudier la parole dans l'école biblique. Et je suis juste au tout commencement. D'ailleurs, là, on est au commencement des psaumes. C'est juste le psaume 1, c'est le type de l'iceberg. Mais il y a toute une montagne derrière. Et c'est quelque chose de magnifique de pouvoir étudier la parole de Dieu, d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu veut nous enseigner, de pouvoir être enseigné par lui et de pouvoir le rechercher. Ne manquez jamais à chercher chaque petit détail de la parole pour pouvoir grandir et pouvoir connaître son cœur. J'aimerais que l'on puisse prier. Seigneur, tu nous invites ce matin à être bénis en toi. Tu veux que l'on soit bénis ? Parce que tu as déjà tout préparé pour qu'on puisse recevoir ce don qui vient de toi. Tu nous as donné ton Fils pour notre réconciliation avec toi. Tu nous as donné ta parole pour que l'on puisse te connaître, la prière, pour que l'on vive continuellement en relation avec toi et ton peuple, pour qu'on puisse s'édifier les uns les autres et se pousser de l'avant, Seigneur. Tu nous appelles à être justes, à être fidèles, à marcher dans la droiture et dans l'humilité, devant le regard de ta face, Seigneur. touche nos cœurs à ce que l'on reçoive ta parole, ton enseignement, et que l'on puisse entrer dans ta louange, entrer et vivre une vie, vivre une nouvelle année qui te soit consacrée et qui soit marquée par ton empreinte, par ta bénédiction, que l'on puisse porter du fruit pour toi, Seigneur. Ô combien tu es digne que tes enfants tiennent ferme en toi, trouvent la satisfaction en toi que tu as déjà promis et que tu veux donner, et qu'ils portent du fruit pour toi là où tu les as placés, Seigneur. Touche nos cœurs afin qu'on porte du fruit pour toi, que tu sois honoré dans nos vies elles-mêmes et au travers de nos vies, que les gens autour de nous puissent te reconnaître et venir vers toi pour te louer, Seigneur, et nous joindre dans cette adoration. Tu es digne d'être honoré et loué jusqu'au bout de nos vies, Seigneur. Puisses-tu porter du fruit en nous et être adoré par nos vies, Seigneur, dans le nom de Christ. Amen.